Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici ce soir. Donc, en effet, je vais vous parler un petit peu de changement climatique, de ma perspective quand même, qui est celle de l'énergie. Moi, j'arrive de l'énergie et on va le voir, l'énergie est quand même responsable d'une fraction très importante des gaz à effet de serre. Et c'est un peu comme ça que je suis tombé dans les changements climatiques. Donc, comme on l'a dit, j'ai eu l'occasion de co-présider la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec, dont le rapport « Maîtriser notre avenir énergétique », à mon avis, reste encore d'actualité. Et j'anime une émission de vulgarisation scientifique à la radio, à Radio-VM, à Montréal, donc 91,3 FM. Vous pouvez l'entendre ici sur le site Internet de Radio-VM ou en balado-diffusion, soit via le site La Grande Équation ou iTunes U, page Université de Montréal. Donc, essentiellement, je couvre tous les sujets, les domaines du savoir, de la philosophie à la physique. Donc, cette semaine, après-demain, on parlera donc du prix Nobel de physique sur les neutrinos et on couvre un peu toutes sortes de sujets. Alors, maintenant que la promotion est faite, passons au sujet d'aujourd'hui. Ce que je voudrais faire, c'est d'abord vous présenter un petit peu. En principe, si vous êtes ici, vous êtes probablement convaincu que les changements climatiques sont une chose qui se produit et que l'origine des changements climatiques est en bonne partie anthropique. Donc, c'est nous qui sommes responsables des changements climatiques. Je vais donc en parler juste un petit peu. Essentiellement, cette idée-là de changement climatique remonte à la fin du 19e siècle. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Un Suédois, je ne me rappelle jamais de son prénom, Svante Arrhenius, qui a fait des calculs vers 1896 et est arrivé à la conclusion qu'en effet, l'utilisation dans ce temps-là du charbon pouvait avoir un effet sur le réchauffement climatique. Et il avait calculé, pas de manière si fausse que ça, que doubler la concentration de CO2 dans l'atmosphère pourrait augmenter la température de la planète d'à peu près 5 degrés. On a assez rapidement ignoré Arrhenius, d'abord parce qu'on ne pouvait pas imaginer, il y a 100 ans, que notre espèce pouvait avoir un effet significatif sur la température du globe, sur la planète elle-même. Et aussi parce qu'on pensait que les océans pouvaient pas mal absorber tout ce qu'on produisait en termes de CO2. Et finalement, c'est seulement beaucoup plus tard, parce que je ne voudrais pas vous faire toute l'analyse, mais en gros, dans les années 70, on s'est plutôt mis à craindre le refroidissement climatique, parce qu'on avait eu quelques décennies relativement froides, et on avait aussi l'hiver nucléaire qui nous pendait au-dessus de la tête. Et c'est seulement un retournement au début des années 80, à peu près en même temps qu'au moment où on a découvert le trou dans la couche d'ozone dans les deux pôles, qu'on s'est aperçu que, en effet, si on calculait les moyennes sur plusieurs décennies, on s'apercevait que depuis que l'humanité, depuis qu'on brûlait du charbon, puis ensuite du pétrole avec le charbon, la température moyenne du globe commençait à s'élever. Et les premières simulations qu'on faisait à ce moment-là, les modèles, les ordinateurs commençaient à être assez puissants, montrait vraiment qu'on allait vers un réchauffement réel. Donc, on avait, vers 85-86, deux problèmes mondiaux, planétaires, qui nous pendaient au bout du nez. Premièrement, il y avait la destruction de la couche d'ozone et il y avait le réchauffement climatique. On a réglé un des deux problèmes en l'espace de quelques années seulement, à Montréal d'ailleurs, donc à quelques kilomètres d'ici, en banlieue de Gatineau. On a donc fait le protocole de Montréal qui a permis de régler en bonne partie l'élimination de la couche d'ozone. En même temps, on n'a pas réglé la question du réchauffement climatique. Donc, deux problèmes qui, en apparence, peuvent être très similaires, mais en réalité, qui sont très, très différents. Parce qu'en gros, c'était facile de dire à quelques compagnies dans le monde, vous allez arrêter de produire ces gaz-là, les fréons, vous allez trouver d'autres solutions. Il y avait très peu de pays producteurs, il y avait très peu de compagnies productrices, alors que quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre, c'est tout le monde, chacun d'entre nous, qui sommes responsables des émissions de gaz à effet de serre. Donc, la problématique est complètement différente, ce qui fait que, 30 ans plus tard, on n'a toujours pas réglé le problème des réchauffements climatiques. Quand on regarde les chiffres, donc ici, je vais vous montrer quelques chiffres, je vais essayer de ne pas vous assommer avec des acétates. Donc, vous voyez mon âge, hein, je parle encore d'acétate. Alors, essentiellement, ce qu'on voit, c'est qu'on voit bien qu'à partir du début du 19e, du 20e siècle, on a un réchauffement qui se produit. Ce n'est pas un réchauffement systématique, il y a des plateaux, donc on a connu quelques plateaux dans le passé. Ça ne s'arrête pas là quand on regarde la température des océans, l'étendue des glaces. Donc, il y a toutes sortes de mesures indépendantes qui pointent dans la même direction. Donc, il est à peu près impossible aujourd'hui de scientifiquement maintenir qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Et les corrélations qu'on a établies depuis une vingtaine d'années montrent aussi, hors de tout doute ou presque, que c'est nos activités qui sont responsables du réchauffement climatique. Okay. Donc, on peut toujours, quand on cherche comme il faut, trouver un ou deux scientifiques qui vont s'opposer, mais quand on regarde les données, quand on regarde les faits, il est difficile de s'opposer à ça. On a eu l'année dernière, vous vous rappelez, un des hivers froids des dernières années dans notre coin. Si on regarde le mois de janvier dernier, on s'aperçoit que, à part quelques régions bleues, donc entre autres autour du Québec, qui descendait un peu sur la côte, c'est rouge partout, donc c'était plus chaud que la moyenne. Et en gros, chaque année est à peu près plus chaude que la précédente, quand on regarde la moyenne ces dernières années. Donc, les 10 années les plus chaudes qu'on a connues se sont produites dans les 20 dernières années. Okay. Donc, en gros, on ne peut pas douter de cet aspect-là. La question, c'est est-ce qu'on doit s'en faire? Pourquoi est-ce qu'on doit s'en faire? Au Canada, on peut dire, on serait bien content qu'il fasse un peu plus chaud. Moi, j'aime l'hiver, donc je ne suis pas de cet avis-là, mais il y a des gens qui ne sont pas comme moi. Le problème, ce n'est pas tant qu'un petit peu de réchauffement. Le problème, c'est que le réchauffement planétaire va changer beaucoup d'aspects sur la planète. Donc, d'abord, la planète ne disparaîtra pas. La Terre est là depuis 4,3 milliards d'années, 4,5 milliards d'années. Peu importe ce qu'on lui fait, elle va être encore là pour un autre 4 milliards d'années avant que le Soleil la détruise. Okay? Donc, on a du temps. La vie ne disparaîtra pas sur Terre. La vie était là bien avant nous. Et malgré tous les dommages qu'on peut faire à la planète, la vie va se poursuivre. Donc, ce n'est pas un problème quand on dit qu'il faut sauver la planète. Il ne faut pas charrier d'une certaine façon. La planète va prendre soin d'elle-même. Le problème, c'est qu'on voudrait bien se préserver un petit écosystème qui nous permette à nous de prospérer de manière relativement confortable et maintenir autour de nous un petit peu un environnement qui nous est familier et avec lequel on est capable de vivre. Okay. Le réchauffement de la planète fait en sorte, par exemple, que l'eau se réchauffe. Or, l'eau qui se réchauffe prend de l'expansion et ça veut dire que quand les océans se réchauffent, ils vont prendre de l'expansion, ils vont inonder des terres où il y a beaucoup de gens qui habitent. Okay. Évidemment, quand on fait de l'inondation massive de centaines de millions de personnes qui doivent se déplacer, bien, ça pose des problèmes. Okay. On parle de centaines de millions de personnes. Je vous rappelle que la Syrie, c'est à peu près c'est quelques millions d'individus et déjà, ça pose un problème majeur. Donc, il y a un 4 millions ici. Pensons à multiplier ça par 100, par exemple, et voyons qu'est-ce que ça pourrait faire au niveau planétaire en termes de déstabilisation de la société telle qu'on la connaît. Je n'irai pas plus loin parce que vous connaissez tout ça et ce n'est pas vraiment le but de ma présentation. Mais si on regarde ici, il y a toutes sortes de choses, l'acidification des océans, etc. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 1985 à peu près, on s'intéresse au climat. En 1988, l'ONU va donc charger une commission de chercheurs d'essayer de faire le point sur la science. Okay? C'est la naissance du GIEC, le groupe international d'études sur le climat. Merci. Vous voyez que moi, je viens de l'énergie, je ne viens pas de ce monde d'études de climat. Donc, je me perds toujours un peu. Donc, en 1988, on a le groupe qui est fondé. On a la première grande conférence qui va parler du climat à Rio en 92. Et puis, on va avoir quelques années plus tard, on va avoir Kyoto. Donc, il y aura des conférences à peu près annuelles, mais des grandes conférences qui sont plus importantes, qui se produisent à des intervalles plus grands. Donc, en 97, pour ne pas dire de bêtises, c'est la COP3, donc la troisième rencontre sur le climat qui va se produire et qui va donc signer le célèbre accord de Kyoto. Avec toutes ces failles qui font que, malgré tout, ça ne fonctionne pas très bien, cet accord-là, et je vais revenir là-dessus. Je saute un petit peu, quelques années plus tard, donc quand même 8 ans plus tard, en 2005, on aura, avec la signature de la Russie, suffisamment de pays et suffisamment d'émetteurs pour que l'accord soit officiellement ratifié au niveau international, okay, incluant le Canada. Donc, on met en place l'accord en 2005, 8 ans après qu'on ait voté le protocole. En 2009, c'est la catastrophe à Copenhague. Essentiellement, personne ne peut s'entendre sur quoi que ce soit. Et tout le monde s'était plus ou moins entendu de dire à Copenhague, c'est 12 ans après Kyoto, il va falloir qu'on révise nos cibles parce que Kyoto visait jusqu'en 2012. Il faut aller plus loin, il faut qu'on mette des cibles. Et c'est un échec total. Tout le monde part assez sans accord. 2 ans plus tard, le Canada quitte l'accord de Kyoto, quelques mois avant d'être, ou quelques semaines avant d'être obligé d'assumer des pénalités pour ne pas avoir avancé sur le sujet. Donc, on traîne encore, ce sera Durban où le Canada recevra tous ses prix fossiles. Et finalement, on arrive donc en 2015, 6 ans après l'échec de Copenhague, et essentiellement 18 ans après le dernier protocole où les gens sont entendus sur quelque chose au niveau planétaire, pour une autre conférence qu'on appellera donc la conférence de la dernière chance ou quoi que ce soit. Il faut quand même éviter d'exagérer les qualificatifs, mais c'est quand même une conférence où il y a beaucoup d'espoir, en partie parce que ce n'est pas le Danemark qui gère ça. La France a quand même une expérience diplomatique plus solide, si on veut, que le Danemark. Et donc, il y a pas mal d'espoir qui s'appuie sur le fait qu'on a une diplomatie qui est solide. Il y a aussi une certaine volonté. Plus ça avance, plus les gens se rendent compte des effets des changements climatiques. Il y a des pressions qui viennent de la base, qui viennent d'en haut, qui viennent du pape, qui viennent de l'OCDE, qui viennent d'un peu partout, et qui poussent essentiellement toutes dans la même direction. Il faut avancer. Okay? Alors, c'est un peu là où on en est, et ce sera donc Paris, la COP21, qui commence la semaine prochaine, qui va rassembler, vous allez voir, à peu près tout le monde ou presque sur la planète va être à Paris la semaine prochaine. Okay? Mais ce n'est pas parce que tout le monde est là que tout le monde va agir. En fait, c'est un petit groupe qui va être vraiment au cœur de l'action, qui sont les représentants des nations qui vont négocier, les négociateurs, avec des petites équipes derrière, des petites équipes, le Canada, peut-être 150 personnes, quelque chose comme ça. Donc sur les 40 000, 60 000 personnes qui vont être à Paris, il y en a peut-être 5 000 qui sont vraiment au cœur de l'action et tous les autres vont graviter sans vraiment contribuer grand-chose, mais ils pourront dire qu'ils sont à Paris. Donc moi, je ne serai pas à Paris, donc vous avez compris, évidemment, avec mon ton critique. C'est parce que je suis jaloux que je dis ça, là, mais je vais être à Montréal. Donc, quels sont les scénarios? On se base beaucoup dans ces choses comme ça sur des scénarios. Disant, si on ne fait rien, où est-ce qu'on devrait être? Si on fait un petit peu, si on fait beaucoup, qu'est-ce qu'on va faire? Okay. En gros, ce qu'on doit viser, c'est aujourd'hui, on s'entend à peu près pour dire que la cible idéale, c'est déjà plus que ce qu'on pensait il y a quelques temps. On visait 1 degré. Là, on se dit on s'entendrait pour atteindre 2 degrés de réchauffement maximal d'ici 2050. Okay. On s'entend aussi pour dire que ce ne sera probablement pas possible de rester là, mais c'est quand même la cible qui sert de référence aujourd'hui et qui dit qu'on pourrait augmenter nos émissions de gaz à effet de serre en gros de 50 % par rapport à la référence de 300 parties par million. On est déjà à 400 parties par million, donc il nous reste à peu près 50 parties par million qu'on peut rajouter. Donc, ça voudrait dire qu'on peut encore, qu'on va augmenter un peu les émissions. Mais malgré tout, parce qu'il y a quand même un mouvement qui va vers l'augmentation, ça implique des changements très, très draconiens en termes de changement dans nos émissions. Je vais revenir là-dessus encore. Donc, je vous fais juste un petit sommaire de choses que vous savez probablement pour essayer là, de dire on parle de maintenant, puis on va avancer vers un peu plus de discussion. Où est-ce qu'on en est au Canada? Okay. Parce que cette question-là est quand même importante. On est au Canada et les actions... Dans le cadre du protocole de Kyoto, les actions se font pays par pays. Okay? En gros, les pays peuvent s'associer pour faire des groupes. On voit ça en Europe. Mais en gros, c'est chaque pays a la responsabilité de compter ses émissions à lui et d'agir sur ces émissions-là. Sans égard au fait qu'une partie de ça peut être due à des services qu'on va exporter, ou au fait qu'on exporte certaines émissions en disant une industrie qui est basée dans un pays qui décide de délocaliser ses émissions de GES dans un autre pays, soudainement n'est plus soumise au compte, à la comptabilité du pays où elle était initialement. Donc, il y a tout un jeu qui fait que Kyoto a des problèmes, mais c'est dans ce cadre-là qu'on le pense aujourd'hui. Donc, je vais rester dans ce cadre-là. Je vais revenir un peu plus tard. Okay. Donc, le Canada. Le Canada, en fait, le monde d'abord. Hein. Le monde, c'est on émet 41 milliards de tonnes de CO2 équivalent. Donc, essentiellement, il y a toutes sortes de gaz à effet de serre. Et pour simplifier la vie, on recalcule. Le méthane, c'est 30 fois le CO2, par exemple. Donc, chaque tonne de méthane, on la multiplie par 30, puis on l'ajoute ici. Et ça nous permet de tout ramener la problématique dans un seul chiffre. On aime ça simple. Okay? Donc, en gros, 41 milliards de tonnes. L'agriculture forêt est responsable d'à peu près la moitié au niveau mondial. Industrie, bâtiment, transport, l'autre moitié. Quand on sépare juste le secteur énergie de tout ça, on arrive au fait que l'énergie, au niveau mondial, est responsable du 2/3 des émissions de gaz à effet de serre. Donc, l'énergie, c'est au cœur des efforts. L'autre partie est en grande partie, pas uniquement, les questions de déforestation et d'agriculture. Mais c'est ça qui domine. Il y a une troisième partie, si on veut, qui est les procédés industriels. Maintenant, comment se répartissent ces 41 milliards de tonnes? On voit ici la taille des pays, pas en fonction de leur géographie, mais en fonction de leur émission de gaz à effet de serre. Et là, tout de suite, nous saute aux yeux l'épouvantable cas de la Chine, les gros méchants, qui, eux, sont responsables de 7, presque 8 milliards de tonnes de CO2, alors que le Canada, il est en haut là-bas avec 50, ici sur ce graphique-là, c'est 50 quelques... Non, c'est plus que ça. On est à 800, on est à peu près à 700 millions de tonnes. Ouais, c'est un vieux chiffre, là, mais on est autour de 700 millions de tonnes. Donc, on voit un petit peu que finalement, on n'est pas bien gros. Mais quand on fait le calcul, à mon avis, qui est la bonne façon, c'est ramener ça par individu, par personne. Là, les choses changent un petit peu. Hein? La Chine, quand on regarde où est-ce qu'elle est, mais la Chine se retrouve ici à peu près 2 tonnes de CO2 par habitant. Ça doit être un peu plus que ça. Vous voyez que les chiffres ne sont pas toujours... ça ne marche pas. 6 tonnes de... Ça marche, on est à 2000 ici, parce que sinon, on n'arrive pas. Donc, 6 tonnes de CO2 par habitant. Okay? Le Canada est quand même beaucoup plus haut. Okay? Et j'ai même fait un petit zoom pour qu'on le voit, parce qu'il n'est pas très large. Mais quand on regarde ici le Canada est quand même le troisième émetteur par capita, et dépendamment des années, on passe au premier rang. Donc, en fait, on échange un peu la première place avec des pays comme l'Australie puis les États-Unis. Okay. Tous les pays ne sont pas là. Par exemple, on n'a pas inclus ici des pays comme le Qatar. Il y a certains petits pays qui seraient nettement au-dessus, mais qui sont très petits, donc qui ne sont pas inclus. Okay. Toujours est-il donc que le Canada... Même si en total, on n'est pas grand. En fait, en total, par pays, on est le 10e émetteur au niveau mondial, avec une population de 3 millions, 30 millions, à peu près 34 millions, sur une population mondiale de 8 milliards. Okay? Donc, 7 milliards. Donc, en gros, on en émet pas mal. Comment est-ce qu'on avance dans nos histoires? Si on regarde l'évolution depuis 20 ans à peu près, donc de 90 jusqu'à 2012, la cible initiale de Kyoto, que le Canada avait signée et a dessinée, c'était une réduction de 6 % en 2012 par rapport à 90. Donc, on voit la courbe rouge en bas. Et ensuite, un peu plus tard à Copenhague, on s'est engagé à réduire de 17 % nos émissions en 2020 par rapport à 2005. C'est la courbe orange. Et on voit que ni dans un cas ni dans l'autre, on s'enligne. On n'a pas respecté la cible de 2012, puis on ne s'enligne pas pour respecter la cible de 2020 non plus. Comment est-ce qu'on émet? D'où viennent nos émissions? Sans surprise, au Canada, à peu près 25 % des émissions de gaz à effet de serre viennent de la production d'énergie. Et c'est la production, évidemment, des combustibles fossiles, donc pétrole, gaz naturel, en bonne partie sable bitumineux. Donc, l'énergie, juste la production d'énergie, c'est un grand secteur d'émissions, mais ce n'est pas le seul. Hein? On a souvent tendance à ne parler que des sables bitumineux, mais sables bitumineux, c'est le quart. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même 3/4 des émissions de gaz à effet de serre au Canada qui ne sont pas des sables bitumineux. Okay? L'agriculture, les bâtiments, donc l'utilisation, entre autres, du gaz naturel dans les bâtiments, du mazout. Le transport routier, qui est responsable d'une partie importante des émissions de gaz à effet de serre. Autre transport, donc au niveau canadien, c'est à peu près 15 % qui est associé au transport pour les émissions de gaz à effet de serre. Donc, quand on fait le total de l'énergie, c'est à peu près 80 % des émissions de gaz à effet de serre au Canada qui viennent de l'énergie, soit la production d'énergie, soit l'utilisation d'énergie. Ça reste donc très, très important. Et quand on regarde comment on sépare ça par province, on s'aperçoit que tout le monde n'est pas égal. Donc ici, je n'ai pas divisé par la population, ça serait encore pire, donc j'ai gardé ça par province. Okay? Donc on voit que, par exemple, en Alberta, on est presque à 300 millions de tonnes équivalent de CO2. Au Québec, on est à peu près à 80 millions de tonnes. Okay? L'Ontario est à peu près deux fois ça, donc autour de 170 millions de tonnes de CO2. Donc, c'est très inégal quand on regarde en termes de population entre l'Ontario et le Québec. L'Ontario en émet plus, mais ce n'est pas démesuré. En termes de population, l'Alberta en émet beaucoup plus que tous les autres, évidemment, parce qu'elle a une grande industrie de pétrole. Sans surprise, évidemment, la Saskatchewan va aussi en émettre pas mal. Terre-Neuve aussi, qui est un... Mais vous voyez que le Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse en émettent plus que Terre-Neuve, même s'ils ne sont pas vraiment des gros producteurs de pétrole. Pourquoi? Parce qu'entre autres, ils ont des centrales au charbon pour produire de l'électricité. Et ça, ça émet pas mal. Okay? Donc, il ne faut pas juste cibler, encore une fois, les sables bitumineux. Il faut se rappeler qu'il y a d'autres sources d'émissions. Et on doit pas juste toujours taper sur un clou, à mon avis. Okay? Si on regarde au Québec, maintenant, on voit une image assez différente de ce qu'on avait dans le reste du Canada. Entre autres parce qu'on n'a pas de... Notre production d'énergie au Québec est essentiellement à zéro émission de gaz à effet de serre. Donc, l'hydroélectricité n'émet pas de gaz à effet de serre ou très peu. Au moment où on inonde un bassin, on va avoir des émissions qui viennent, mais après quelques années, les émissions vont être les mêmes que celles d'un lac normal. Donc, essentiellement, on ne compte pas. Et ce qui fait qu'en gros, quand on regarde les émissions, l'électricité, c'est 0,3 % des émissions de gaz à effet de serre au Québec. 45 % c'est le transport. L'industrie, 32 % et résidentiel et commercial, de l'ordre de 10 % okay? Agriculture, etc. Donc, on voit qu'on a un portrait assez différent de ce qu'on a quand on regarde le Canada. Et je dirais, c'est ça qui est important de se rappeler quand on pense changement climatique, d'imaginer qu'on va avoir une seule solution pour l'ensemble de la planète, puis que tout le monde va appliquer la même règle, puis on va avoir à la fin une solution, ça ne marchera pas. Parce que localement, les émissions de gaz à effet de serre varient beaucoup. Si vous êtes au Brésil, bien, la déforestation peut compter, ou en Indonésie, peut être significative dans les émissions de gaz à effet de serre que vous avez. Ici, la déforestation au Canada, c'est relativement faible en termes de production. Où ça joue, c'est dans d'autres secteurs. Quand on regarde l'évolution des émissions de gaz à effet de serre au Québec entre 1990 et 2012, okay, je vous rappelle que le Québec s'est engagé à réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020 par rapport à 1990 et de 6 % par rapport en 2012. Donc, en 2012, on a atteint la cible de réduction de 6 %, sauf que l'année suivante, on l'a perdu parce qu'on a augmenté nos émissions de gaz à effet de serre puis on est au-dessus du moins 6 %. Donc, en gros, si on regarde ici, l'électricité, on a bien fait, les déchets, on a bien fait, résidentiel, on a bien fait, industrie, on a bien fait. Là où ça a sauté, c'est légèrement en agriculture, mais surtout en transport. Transport, on a fait une augmentation d'à peu près significative. En fait, on est passé de 27 à 35 millions de tonnes de CO2 équivalent. Donc, le transport, c'est toutes les voitures, tous les camions, essentiellement. Donc, voici la situation. Vous voyez, je suis parti du monde où je donnais une situation relativement grossière parce qu'il faudrait que je fasse ça pour tous les pays, pour toutes les régions quand elles sont grandes. Donc, ça devient rapidement impossible. Mais pour vous montrer que la problématique des changements de lutte au changement climatique, c'est autrement plus compliqué que la problématique du trou dans la couche d'ozone. C'est une problématique qui doit se penser par objectif au niveau mondial, à des conférences comme à Paris, mais qui va devoir être réalisé sur une échelle beaucoup plus faible, où on va pouvoir adapter les programmes à la situation réelle. Et ça, souvent, on perd de vue cet aspect-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au Canada à une semaine de Kyoto? Donc, le gouvernement Trudeau a dit, on n'a pas le temps de s'asseoir puis de mettre en place des cibles pour le Canada. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Paris avec les promesses des différentes provinces, avec ce qui est en place dans les provinces. Puis, 90 jours après Paris, on vous mettra nos promesses sur papier. Donc, où est-ce qu'on en est dans les provinces? Parce que c'est clair qu'à ce moment-là, ça joue au niveau provincial. En gros, il y a 4 provinces qui ont une action sur les changements climatiques. Une action sérieuse, avec un prix sur le carbone. En fait, 3 provinces et demie, si on veut, parce que la province d'à côté, ici, a promis de le faire, mais ce n'est pas encore fait. Donc, ça s'en vient en principe. Ça devait venir cet automne. L'automne se termine très bientôt, donc on va attendre le programme de Mme Wynne. Ou Mme Wynne, pardon. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? Québec, Californie et Ontario bientôt, on utilise ce qui s'appelle un système de plafonnement et d'échange, si on veut une bourse du carbone. Okay. En gros, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on dit, si j'ajoute, je vais rester avec ce qu'on a présentement, donc Californie plus Québec, voici le total des émissions de gaz à effet de serre qui sont émises dans les deux États. Chaque année, on va réduire le total par un certain pourcentage. Et essentiellement, ceux qui veulent polluer, émettre du CO2, il va falloir qu'ils aient les permis nécessaires pour émettre. Et comme on va réduire d'année en année les émissions possibles, les compagnies, il va falloir, ou les émetteurs, il faudra qu'ils se battent pour avoir accès à ces permis de plus en plus rares, donc en payant de plus en plus cher pour avoir accès à ces permis-là. Au Québec, donc, depuis 2013, tous les grands émetteurs sont dans le système. Évidemment, ce qu'on fait, c'est qu'on a donné aux grands émetteurs une certaine quantité de permis d'émission, donc qui sont gratuits. Et cette quantité-là va diminuer de 2 % année après année. Donc, en gros, par exemple, on s'est assis avec l'industrie de l'aluminium, puis on a dit, OK, c'est quoi la moyenne d'émission par tonne d'aluminium produite? Et puis, on a donné la moyenne à tout le monde. Donc, il y en avait qui étaient en surplus dès le départ en termes de permis. Il y en a d'autres à qui il leur en manquait. Mais en gros, on a fonctionné comme ça pour tous les secteurs, les grands émetteurs. Depuis cette année, on a augmenté le nombre d'individus ou de producteurs de gaz à effet de serre qui font partie du marché. Et entre autres, parmi vous, il y en a qui font partie du marché du carbone maintenant. Donc, est-ce que vous pouvez me dire, parmi vous, qui fait partie du marché du carbone du Québec? Qui? Tout le monde! Tout le monde qui a une voiture, qui achète des combustibles, soit pour sa voiture, soit du gaz naturel pour la maison, du diesel ou quoi que ce soit, est aujourd'hui membre de ce marché, fait partie du marché et achète via les distributeurs d'essence, les distributeurs de gaz naturel, des permis d'émission de gaz à effet de serre. Okay? Et ce que je trouve déplorable, c'est que les gens ne savent pas parce que le gouvernement s'est bien gardé de vous aider en vous disant, regardez, vous payez tant la tonne, ça peut augmenter, on ne sait pas, ça pourrait être 5 fois plus cher dans 5 ans. Peut-être que ça pourrait vous aider à orienter vos dépenses. Est-ce que vous renouvelez, par exemple, votre fournaise au gaz naturel, ou vous allez ailleurs, ou est-ce que vous achetez une voiture plus grosse, plus petite, etc.? On ne vous l'a pas dit, mais pourtant, depuis un an, tout le monde fait partie du marché du carbone. Okay. Le marché au Québec couvre à peu près 85 % des émissions. Okay. Et aujourd'hui, il est autour de 15 $ la tonne, qui est le prix plancher. Donc, chaque année, le Québec et la Californie se sont entendus sur un prix plancher. Et essentiellement, il est impossible de vendre pour le gouvernement de distribuer des permis sous la barre du prix plancher qui va augmenter année après année. Le Québec a une cible de réduction de 20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 90 d'ici 2020. Et il est en train d'adopter un nouvel objectif de 37,5 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 90 d'ici 2030. Je vous rappelle qu'en 22 ans, on a réduit 6 % nos émissions de gaz à effet de serre. Il nous reste 14 % de réduction à faire d'ici 2020. Et ensuite, on rajouterait un 18 % de réduction supplémentaire par rapport à 90. Donc, en proportion de ce qui va nous rester, ce sera beaucoup plus gros sur les 10 années suivantes. Okay. L'Ontario veut joindre ce système-là. La Colombie-Britannique a une taxe introduite en 2008. L'Alberta veut suivre. Je vais revenir sur l'Alberta, qui a annoncé ses affaires hier ou avant-hier, dimanche. Donc, essentiellement, l'Alberta a une taxe qui est passée rapidement à 30 $ la tonne de CO2 en 2012, qui touche la majorité des combustibles fossiles brûlés sur son territoire. Donc, contrairement au Québec, par exemple, ça ne touche pas les alumineries, ça ne touche pas l'ensemble des grands émetteurs de gaz à effet de serre, mais seulement ceux qui utilisent des combustibles fossiles et seulement le combustible fossile utilisé qui est brûlé dans la province. Donc, tout le gaz naturel qui est produit et tout, ça ne compte pas. Il est exclu. Le côté intéressant pour faire passer la pilule, ça a été de dire tout l'argent doit retourner aux contribuables, sinon le gouvernement a une pénalité. Okay? Essentiellement, il faut prendre un certain montant du budget puis le retourner aux contribuables. Okay? Comme si le contribuable, puis, en tout cas, puis le gouvernement, c'est pas la même affaire, mais bon, c'est une autre histoire. Donc, essentiellement, l'argent est remis aux contribuables, okay? C'est-à-dire de manière générale. Donc, évidemment, celui qui va utiliser plus de combustible va payer plus à la fin. Et ça couvre à peu près 70 % des émissions, plutôt que 85. L'Alberta a annoncé dimanche tous les chiffres ne sont pas sur la table, donc je vais quand même vous dire ce que j'en comprends. En gros, l'Alberta veut faire un marché du carbone comme le Québec, mais pas avec la Californie. Pourquoi? Parce que comme le Québec est plus avancé que la Californie en termes de transformation de son économie, de verdissement de son économie, au Québec, 50 % de notre énergie consommée, par exemple, en gros, est déjà à faible émission de gaz à effet de serre. La Californie, c'est beaucoup plus élevé. Donc, nous, il ne nous reste plus de centrales au charbon à fermer, parce qu'on n'en a pas au Québec. Il ne nous reste plus de centrales au gaz à fermer. On n'en a pas. Okay? Donc, en gros, les choses faciles à faire, on ne peut pas les faire. Alors qu'en Californie, il reste de la place. Ce qui fait qu'il est moins cher de réduire une tonne de CO2 en Californie qu'au Québec. Et présentement, ce qui se passe, comme c'est moins cher en Californie, puis que le gouvernement ici ne s'est pas décidé à mettre en place des programmes intelligents pour réduire ici, ce qu'on fait, c'est qu'on achète nos permis en Californie. Et donc, en gros, le Québec, qui est tellement riche, finance la modernisation de l'économie californienne, qui en a bien besoin. Okay? L'Alberta a dit, on ne voudra pas faire ça. On va plutôt garder l'argent chez nous pour moderniser notre propre économie, ce qui n'est pas si fou que ça, si vous demandez mon avis, là, mais bon, je ne suis pas là pour ça. Alors, donc, l'Alberta a dit, on va quand même faire un type de marché qui va couvrir à peu près 90 % des émissions. En gros, tous les utilisateurs de combustibles fossiles, donc les distributeurs seront mis à partie, devront acheter leur permis. Et l'industrie qui, elle, produit des gaz à effet de serre, on va leur remettre, comme au Québec, un certain quota de permis d'émission. Et ces permis d'émission-là vont diminuer avec le temps. Ce n'est pas très clair ce que veut dire diminuer avec le temps parce que, entre autres, aujourd'hui, l'industrie pétrolière en Alberta émet 70 millions de tonnes de CO2. Et puis, Mme Notley a dit qu'il ne faudra pas que ça dépasse 100. Donc, une augmentation potentielle de 50 % des émissions dans le domaine pétrolier. Donc, je ne suis pas sûr où est la réduction quand on peut augmenter de 50 %. Mais ça, je vous laisse calculer. Mais toujours est-il que tout le monde était bien content, on s'est serré la main, on est tout en pleurs avec l'industrie pétrolière qui était à côté de Mme Notley qui a dit « oui, tout est beau, tout est beau ». Okay? Donc, c'est un pas dans la bonne direction. La taille du pas reste à préciser, il va falloir voir les détails qui ne sont pas encore là, mais disons que le pas, à mon avis, est beaucoup moins grand qu'on le pense, okay? Ou qu'on dit. Mais au moins, c'est dans une bonne direction. Son voisin, M. Wall, lui, ne croit toujours pas au changement climatique. Donc, au moins en Alberta, on comprend. Maintenant, le Québec, on est bon. Alors, pétons-nous les bretelles et voyons où est-ce qu'on est. Donc, voici la courbe en bleu ici. C'est une courbe produite dans un document de consultation du ministère de l'Environnement. Là, j'oublie toutes les lettres parce qu'on est rendu avec des ministères à grand nombre de lettres au Québec. Donc, le ministère de l'Environnement a produit, il y a à peu près un mois, un document de consultation pour justifier sa cible de réduction de 37,5 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030, 0,5 parce que c'est plus bas que l'Ontario. Okay? Ben, sinon, on serait à 37. On n'est quand même pas pour faire pas mieux que l'Ontario. Okay? Donc, dans ce document-là, En bleu, on nous montre, avec les mesures de réduction 2013-2020, voici la courbe auquel on peut s'attendre en bleu. Je vous rappelle que le même ministère a adopté comme cible pour 2020 le point vert que j'ai mis ici. Okay? Donc, le ministère nous dit qu'à 4 ans, à 4 ans de l'échéancier, ces mesures ne sont même pas capables de nous rendre à moitié la distance où il faut pour atteindre le 20% qu'on s'est promis de faire. Comme on ne peut pas atteindre le cible de 20%, pourquoi ne pas mettre une cible encore moins accessible pour 2030? Okay? Tant qu'à rater notre cible, soyons ambitieux. Okay? Et je dirais, c'est le gros problème des accords internationaux comme ça, c'est pas parce que les pays vont mettre sur la table des cibles, des objectifs, qu'ils vont être respectés. Okay? Et on le voit, c'est extrêmement difficile. La solution pour le Québec, par exemple, présentement, là, le gouvernement a annoncé 450 millions d'investissements dans le transport électrique. 300 millions au moins dans les voitures électriques. Okay. Combien coûte, si j'achète aujourd'hui sur le marché du carbone, une tonne de CO2, combien ça coûte? 15 $. Combien coûte une petite tonne de CO2 quand on finance une voiture électrique autour de 8 000 $ la voiture électrique? 150 $ la tonne. Donc, on est tellement riche au Québec que plutôt que de financer les initiatives qui nous permettraient d'économiser à 8 $ la tonne, il en existe, à 3 $ la tonne de CO2, il en existe, à 50 $ la tonne, il y en a pas mal, on dit, on est riche, fait qu'on va tout de suite aller vers à peu près ce qui nous coûte le plus cher, la voiture électrique, puis avec zéro retombée pour le Québec, parce qu'il y a zéro partie d'une voiture électrique qui est faite au Québec, sauf la plaque, okay? Minéralogique, mais elle serait aussi sur une voiture non électrique, fait que ça ne compte pas. Okay? Donc, en gros, on va prendre le 8 000 $ qu'on va envoyer à l'industrie à l'étranger, que ce soit Toyota, que ce soit GM. Okay? Ce 8 000 $-là, donc on est riche, hein? On envoie en Californie, on envoie 300 millions à l'étranger pour acheter des crédits essentiellement à 150 $ la tonne, parce qu'on trouve que ce n'est pas assez cher, 15 $ la tonne qu'on envoie en Californie. On devrait envoyer un peu plus d'argent pour aider l'économie japonaise et américaine. Vous voyez que je suis un peu cynique, mais pour moi, c'est essentiel à un moment donné de comprendre ces histoires-là. Parce qu'on va mettre 300 millions de dollars sur le 3 milliards dont on va disposer d'ici 2020, okay? C'est 10 % dans des dépenses qui sont complètement farfelues. Et pendant ce temps-là, on n'arrive pas à atteindre nos cibles. Donc, on s'engage dans des directions qui mènent à rien. Tout ça pour vous dire qu'on a quelques défis à relever. Et je voudrais donc revenir un petit peu sur les défis. J'avais promis, j'avais un autre défi qui était celui de parler pendant une heure. Et je vais essayer de remplir ce défi-là puis de ne pas dépasser trop. Okay? 5 grands défis, okay, auxquels on doit faire face toute la planète. Je vais revenir un peu sur le défi qui nous touche là-dedans. Premier défi, c'est l'abandon des énergies fossiles. Je l'ai dit, au niveau mondial, c'est 2/3 des émissions de gaz à effet de serre qui sont de l'énergie. Et quand c'est l'énergie, c'est seulement l'énergie fossile. Tout le restant ne compte pas. Donc, le nucléaire ne compte pas, l'hydro ne compte pas, la biométhanisation ne compte pas, le bois de chauffage ne compte pas. C'est que les énergies fossiles. Donc, si on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, de 15, 20, 30 % il faut couper au moins d'autant dans les combustibles fossiles. Et ça, ce n'est pas facile. En gros, si on ne fait rien, on devrait augmenter de 50 % notre consommation des combustibles fossiles d'ici 2040 si on se fie à l'Agence de l'énergie internationale. L'Agence internationale de l'énergie, qui n'est pas très bonne dans ses prédictions, rassurez-vous au moins, mais ça fait beaucoup. Donc, là-dessus, ça, c'est l'énergie totale. On voit qu'on espère augmenter les renouvelables d'à peu près 50 % aussi. Donc, on n'est pas très optimiste. Pourquoi? Parce que dans les renouvelables, la majeure partie aujourd'hui des renouvelables, c'est du bois, l'hydroélectricité, okay? Et le nucléaire compte dans le renouvelable, si je ne me trompe pas ici. Non, il est séparé à 7 % La part éolien solaire, qui est la part qui doit croître la plus, est à 1 %. Okay? Donc, même si on la multiplie par 5, on passe de 1 à 5 %. C'est à peu près l'augmentation qu'on prévoit ici. Tout le restant, c'est en charbon, en gaz naturel puis en pétrole. Donc, où est-ce qu'on peut couper? La première chose où on peut couper, c'est dans l'électricité. Pourquoi? Parce qu'on est très peu efficace quand on fait de l'électricité avec des combustibles fossiles. Une centrale au charbon a typiquement, quand on lit dans les specs là, des meilleures centrales au charbon, on nous dit 45 %. Mais quand on va voir aux États-Unis, l'Agence de l'énergie américaine, puis on regarde les vrais chiffres, on s'aperçoit que ça tourne autour de 33-34 %. Même chose gaz naturel. Sur papier, c'est 65 %, 60 %. En réalité, quand on compte la quantité de gaz qui rentre, la quantité d'énergie qui sort, on est à 50 %. Okay. Donc, faisons chiffron, 35 %. Okay. Donc, essentiellement, on doit brûler trois fois plus d'énergie en charbon qu'on sort en électricité. Donc, alors que si on prend du solaire ou du photovoltaïque ou de l'éolien, c'est 100 % de l'énergie. Une fois qu'on a fait tourner la turbine, qu'on a fait un watt, c'est un watt qui sert à la fin chez le client. Donc, là où il y a le plus de gains à faire, c'est dans l'électricité, parce que l'électricité, c'est là qu'on a le plus grand gain. L'électricité puis le transport. Okay? Même chose, pourquoi c'est intéressant d'avoir une voiture électrique, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est qu'un moteur électrique, c'est efficace à 95 %. Okay? Un moteur à combustion interne, un moteur à essence, c'est autour de 22-23 %. Je vais être optimiste. Okay? Je ne vous parle pas quand vous êtes pris dans le trafic sur le pont ici le matin. Là, vous êtes à 10 %, 5 %, 3 % d'efficacité. Maintenant, si on est à diesel, on est à 30 % à peu près. Donc, en gros, on est quatre fois plus efficace avec un moteur à essence, électrique qu'un moteur à essence. Donc, vous prenez quatre fois moins d'énergie. C'est là que l'intérêt de l'électrification est essentiel. C'est l'efficacité de l'électricité par rapport à la combustion. Et ça, Carnot, qui est un physicien français du 1825 à peu près, aurait pu vous dire ça parce qu'il avait déjà compris ce procédé-là il y a 200 ans. Donc, en gros, il va falloir travailler là-dessus. Je n'irai pas en détail parce que j'avance. Juste une question. Où est-ce que dans le monde, on a réussi la plus grande transformation du secteur de l'énergie au cours des 30 dernières années? Oui. Pays scandinave, la Chine, qui dit mieux? L'Allemagne. L'Allemagne, ils sont à 83 % de combustibles fossiles aujourd'hui. Okay? L'Islande, je vais vous dire mieux que ça. En termes de transformation, c'est le Québec. Okay? Dans les années 80, on a réduit notre utilisation du pétrole de 45 % en 8 ans. Okay? En gros, si on refaisait ça aujourd'hui, on rentrerait notre cible à peu près, même notre cible, on rencontrerait notre cible de 20 % et on dépasserait notre cible d'ici 2020 si on faisait la même chose qu'on a fait. Okay? Pourquoi? Parce qu'on avait accès, au début des années 80, au chauffage, qui n'était pas efficace, okay, et qui n'était pas très coûteux à remplacer. Alors que quand on électrifie le transport, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, c'est beaucoup plus difficile. L'électrification du chauffage et l'électrification de procédés industriels qu'on a abandonnés depuis 90, qu'on ne soutient plus, nous a permis de faire une transformation qui est presque unique dans le monde. Okay? On ne se rend pas compte de ça. Parce que personne ne calculait les CO2 dans ce temps-là. Donc, tout le monde commence à calculer à partir de 90. On oublie le Québec. Mais on a fait des grands pas. Mais c'est de cette ampleur-là qu'il faut faire les changements. Okay? Ce n'est pas des petits trucs à 1 %, 2 %, là. Deuxième grand défi, l'équité. Quand on regarde la consommation d'énergie par habitant sur la planète, je vous calcule ça en tonnes équivalent pétrole. Là, c'est 7 barils de pétrole empilés derrière moi et une tonne. Okay? Donc, 14 barils en gros par habitant de pétrole qui est consommé quand j'additionne toutes les énergies consommées puis je transfère ça en pétrole équivalent. Maintenant, comment est-ce que c'est distribué ce 1,9 tonnes équivalent pétrole? La réponse est très mal, okay? Très inéquitablement. Les pays de l'OCDE consomment à peu près trois fois la moyenne mondiale. 1,25 milliard d'habitants consomment 78 %, 80 % de l'énergie de la planète. Alors que le reste du monde, 6 milliards d'individus, consomment 20 % de l'énergie. Il n'est certainement pas question d'aller dire à ce 6 milliards d'habitants, vous êtes des écœurants parce qu'au total, vous faites plus d'émissions de CO2 que nous autres. Okay? Il faut que vous changiez, puis vite. On ne peut pas penser comme ça. Il va falloir faire cette transformation-là de manière équitable. Okay? Je vous rappelle qu'il y a encore plein de pays, et ça, vous ne voyez rien, mais ce n'est pas grave, qui n'ont pas accès à l'électricité aujourd'hui. Okay? Or, quand on regarde le développement humain, on s'aperçoit qu'il faut au moins 2 tonnes équivalent pétrole par habitant pour atteindre un niveau de vie, une qualité de vie similaire aux pays développés. Qualité de vie ne veut pas dire avoir 3 TV à écran plat à la maison. Ça veut dire qualité de vie en termes d'enseignement, de soins, d'espérance de vie, puis d'accès à l'alimentation. Okay? Ça reste limité, mais quand même. Ce qu'on voit, c'est qu'on a besoin d'amener. Or, le reste du monde, aujourd'hui, est à 1,3 tonnes équivalent pétrole. Donc, quand on fait notre transformation, il faut s'assurer qu'on amène les gens à 1,3 milliard. Il faut qu'on les amène à 1,3 tonnes, à 2 tonnes équivalent pétrole, en termes de services. Okay? Comme je disais, si on électrifie, on n'est pas obligé d'aller si loin. Mais on ne peut pas juste dire qu'on va traiter tout le monde de la même façon. Et c'était ça le point de vue de la Chine, okay? De dire, écoutez, là, nous, on a sorti 500 millions de personnes de la pauvreté, il nous en reste encore 800 millions à sortir, vous n'allez pas nous dire qu'il faut qu'on restreigne nos émissions de gaz à effet de serre. Okay? C'est comme ça qu'on pense. Donc, à Copenhague, on a promis un objectif, on a dit on va faire un fonds vert pour le climat qui va mettre chaque année, les pays riches vont mettre chaque année 100 milliards de dollars dans ce fonds-là, qui ira à soutenir l'équité pour les pays en développement. Rassurez-vous, en 2015, au total, on n'a mis que 10 milliards de dollars. Donc, on n'envoie pas nos deniers vers les pays pauvres. Faites-vous-en pas, on ne le fait pas. Okay? Donc, 10 milliards en 5 ans. En fait, le fonds a commencé vraiment en 2012. Donc, on peut dire 3 milliards par année, 33 fois moins que ce qui était attendu. Et ça, clairement, à Paris, il va falloir que ça se discute et il va falloir mettre en place un vrai mécanisme si on veut que les pays en voie de développement embarquent. Parce qu'ils ne pourront pas embarquer. Ils ne peuvent pas dire, nous, on va serrer la ceinture quand il ne reste plus rien à serrer. L'autre défi, c'est la structure des accords internationaux. Je suis venu là-dessus tout à l'heure quand j'ai dit Kyoto compte par pays, qui est une aberration totale. Parce que les émissions de gaz à effet de serre ne se font pas pays par pays. Et comme je disais, si moi je suis un gros pollueur, puis je suis en Alberta par exemple, puis qu'on augmente beaucoup les taxes, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais aller extraire mon pétrole au Venezuela plutôt qu'en Alberta, qu'à Fort McMurray, puis je vais émettre autant à la fin. Donc la planète n'aura rien gagné. Il est donc essentiel qu'on revoie ça. Et je dirais que c'est le plus gros défi, c'est qu'on n'en parle pas vraiment. On reste encore pris dans Kyoto, qui est un échec lamentable. Hein? Ça fait 20 ans qu'on traîne Kyoto et on n'a rien accompli. La façon de le faire, c'est de dire pour les pays riches, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taxer les émissions de gaz à effet de serre, de ce qu'on consomme, peu importe d'où c'est fait. Donc, si on importe quelque chose de la Chine, puis qu'il y a un taux d'émissions de gaz à effet de serre de tant, je vais charger tant de plus pour payer ça. Si j'importe d'un autre pays où il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre pour produire le même bidule, bien lui, il n'est pas taxé. Puis en mettant ça un peu de l'avant, ça permettrait de transformer complètement l'économie de la planète. En assumant chez le consommateur final le coût de la pollution. Parce qu'on dit pollueur-payeur, le modèle qu'on a actuellement avec Kyoto, ce n'est pas ça du tout. Okay? Ce n'est pas le bon modèle. La question, c'est est-ce que c'est faisable avec les accords de l'OMC, avec l'accord de libre-échange avec les États-Unis, avec l'accord qu'on a signé Transpacifique? C'est loin d'être évident qu'on puisse mettre ça. Et c'est ce genre d'accord-là qu'il faudrait signer pour dire... Et ça, ça fonctionne. Par exemple, je vais vous donner juste un exemple. Après ça, il faut que j'arrête presque parce que j'avance pas mal dans le temps. Les moteurs électriques. Okay? Les moteurs électriques, essentiellement, les États-Unis décident de l'efficacité des moteurs électriques partout dans le monde. Les États-Unis ont des normes qui resserrent à chaque fois. On veut des moteurs électriques plus efficaces. Ils n'obligent pas le reste de la planète à acheter ce moteur-là, mais ils disent, nous, tous les moteurs qui rentrent aux États-Unis doivent avoir telle efficacité au plus. Quand tu es un producteur de moteurs électriques en Chine, en Allemagne, au Japon, je ne sais pas trop, tu ne feras pas 3 lignes de moteurs électriques. Tu fais une ligne de moteurs électriques qui rencontre les normes américaines. C'est la norme que tu vends partout à travers le monde. Si les États-Unis et l'Europe se mettaient ensemble et disaient « Nous, on va mettre une taxe sur les biens et leurs émissions de gaz à effet de serre, tu taxes tout ce qui rentre, rapidement, tous les pays se mettraient en ligne pour essayer de juguler les émissions de gaz à effet de serre. Parce que tant qu'à produire ton bidule, tu ne fais pas deux lignes, une ligne à faible émission de carbone puis une ligne à grosse émission de carbone. Tu gères l'ensemble correctement. Okay. Et ça, je dirais, tant qu'on ne fera pas face à cet accord-là, tant qu'on va prétendre que le modèle de Kyoto fonctionne, et c'est là où on s'en va, là. À Paris, on s'en va avec le modèle de Kyoto, c'est un échec garanti. Okay. Désolé, mais c'est comme ça. Maintenant, il faut penser, vous voyez que j'ai un mauvais 4, là, ça devrait être 5 ici, la planification à long terme. Je suis allé voir, donc il y a des commissions parlementaires à Québec pour la cible de 37,5% de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc, je suis allé témoigner là. Et j'ai dit, ce qu'il faut vraiment, c'est une capacité d'analyse, une capacité de dire où est-ce qu'ils sont les effets, où est-ce qu'on peut investir de manière la plus rentable pour l'économie québécoise dans la transformation de notre économie vers une économie à faible émission de carbone. On a besoin de savoir ça, on ne sait pas. Il faut de la modélisation, il faut des comités qui vont évaluer l'efficacité de ce qu'on a mis en place, il faut revenir en arrière. Donc, il faut une structure qui pense et qui est capable de planifier et qui est capable d'évaluer. Donc, le ministre Hertel a dit, on n'en veut plus de comité. Dites-nous juste ce qu'il faut faire. Okay? Si on savait quoi faire pour réduire de 20 % puis de 40 % nos émissions de gaz à effet de serre, ça serait fait. Okay? Le problème, c'est qu'on ne sait pas quoi faire. On sait quoi faire sur papier. Je peux vous dire, on coupe de tant de pourcents dans le transport. Mais ce n'est pas suffisant. Ça coûte de l'argent faire ça. Donc, c'est quoi le chemin le plus efficace, le plus rentable pour l'économie québécoise puis pour l'environnement d'atteindre ces objectifs-là? Aujourd'hui, personne ne peut vous répondre. Et il n'y a pas de réponse parce qu'on ne peut pas se projeter sur 30 ans. Ce qu'il faut faire, c'est on va dire, nous, on pense que le chemin est comme ça. Dans 2 ans, on réévalue. Est-ce qu'on va dans la bonne direction ou pas dans la bonne direction? Puis on avance comme ça, à petits pas, toujours en ciblant à long terme. Et ça, on est incapable de faire ça, que ce soit au niveau fédéral, que ce soit au niveau provincial. Et tant qu'on ne fera pas ça, on n'y arrivera pas. Okay? Donc, on a beau avoir les plus belles propositions, que ce soit l'Europe, les États-Unis, la Chine, si on n'a pas en place un cadre qui nous soutient dans toutes nos décisions, on ne sera pas capable économiquement d'y arriver, socialement. Parce que quand on passe notre temps à faire des décisions et des investissements qui ne sont pas rentables, puis qui dérangent tout le monde, puis qui n'amènent pas où on veut, ben on n'a pas le soutien de la population pour ces transformations. Donc, on peut réussir la transition, mais il faut le vouloir. Il faut vouloir changer, puis il faut vouloir le faire de manière collective. Les gouvernements doivent impliquer les citoyens, doivent éduquer les citoyens, puis on doit faire ça de manière à s'assurer que tout le monde va y gagner, plutôt que faire des investissements qui n'ont pas d'allure. Je vais arrêter ici, juste dire qu'on a publié une série de solutions au niveau canadien sur ce qu'il faudrait faire, en commençant par un prix sur le carbone. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil, vous cherchez à agir sur les changements climatiques. Et ce qu'on a proposé, c'est quand même un plan qui s'étire sur 30 ans et avec des échéanciers différents. Mais à la fin, c'est ce que je viens de dire, il nous faut une flexibilité, mais il nous faut une structure qui est capable de réfléchir, qui est capable de calculer, qui est capable d'évaluer, plutôt que de faire des investissements à la pièce en fonction de ce qui semble le plus vendable ou le plus à la mode. Donc, j'arrête ici. Je n'ai pas répondu à toutes vos questions, j'imagine, mais c'est pour ça qu'on a une période de questions. Alors, merci beaucoup.